Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Alors, ça fait maintenant une semaine que la vaccination des 5-11 ans contre la COVID-19 a commencé ici au Québec. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais je la trouve formidable, la publicité du gouvernement pour encourager les enfants à se faire vacciner. Où c'est des enfants qui font des grimaces, qui tirent la langue à la vilaine COVID-19. Il y a aussi des publicités dans les journaux où on voit nos petits super-héros faire des gros bras, là, puis faire des grimaces à la COVID. Bref, le processus est bien enclenché. Il y a quand même déjà le tiers des enfants admissibles qui ont qui sont déjà fait vacciner ou qui ont pris un rendez-vous. Bref, ça va bien, mais il y a encore beaucoup de questions. On va parler de ces questions-là justement avec Dr. Sarah Wiseman. Elle est pédiatre infectiologue chez Elna Pédiatrie Tiny Tots. Elle est au bout de la ligne. Bonjour, Dr. Wiseman.
Oui, bonjour, Sophie.
Alors, c'est Wiseman ou Wiseman?
Wiseman.
Donc, docteur Wiseman, c'est quoi la question que vous entendez le plus souvent de la part des parents et de la part des enfants par rapport à la vaccination des 5-11 ans?
Donc, en général, ce sont les parents qui posent ces questions-là pour les plus petits, qui était vraiment un discours très différent lorsque j'en discutais avec les adolescents. Donc, les parents s'inquiètent que souvent, comme la maladie n'est pas grave chez les enfants, pourquoi les vacciner et prendre un risque même s'il est petit, pour des complications post-vaccinales. Donc, c'est souvent cela que je discute pour la sécurité et l'innocuité du vaccin. Je pense que c'est ça qui inquiète le plus les parents dans cet inconnu. Donc, ce n'est pas vraiment un inconnu. D'abord, je commence par cela, parce qu'on connaît cette plateforme depuis une trentaine d'années. Puis là, on a déjà un recul de 18 mois sur la vaccination utilisée à une échelle extraordinaire depuis le début de la pandémie. Et on a aussi une expérience pédiatrique avec la vaccination des ados qui a été excellente. Donc déjà, on a ce recul. Les complications souvent arrivent dans les prochains jours, aux prochaines semaines, après la vaccination. Donc ces manifestations inhabituelles, même si elles sont rares, on peut les surveiller. Et d'ailleurs, on a un système pour les monitorer qui est très, très serré. Et c'est comme ça qu'on peut, après que la vaccination a été distribuée, s'assurer que ça reste sécuritaire. Donc, c'est les parents, c'est ce qu'ils veulent savoir, c'est que ça soit sécuritaire.
Voilà. Et les enfants, j'imagine que leur crainte, c'est est-ce que ça fait bobo?
Oui, exact. Mais souvent, ça c'est quelle que soit la vaccination. Je ne pense pas que c'est propre à la COVID-19.
Non, c'est sûr.
C'est quelle que soit la vaccination, même quand je rentre dans le bureau, est-ce que vous allez me piquer? Je dis non, moi, ce n'est pas mon travail, ça va être celui de l'infirmière. Mais définitivement, c'est sûr que la petite piqûre de moustique que je leur dis, là, ça va durer quelques secondes, puis ça sera terminé. Et ce que je leur dis lorsqu'ils me posent la question, c'est que la seringue, elle est vraiment beaucoup plus petite, parce que comme on donne une plus petite dose aussi aux enfants, on fait une petite seringue, donc ils le sentent même pas. Il y a des enfants qui le sentent pas du tout.
Ah oui?
Puis même, et ceux qui le... Tout à fait. D'ailleurs, ma fille, je l'ai fait vacciner la semaine dernière, puis elle était tellement anxieuse à cause de cela, puis elle me dit, maman, je peux pas croire que j'ai rien senti, et que ça va bien. Alors, j'ai dit, tu vois, c'est beaucoup d'anxiété autour de cela, parce que ils s'en parlent entre enfants en classe, qui sait qui va le faire, etc. Donc, je pense que, comme vous dites, eux, ils s'inquiètent plus de petits bobos sur place. Puis, ça ne veut pas dire que tous vont en avoir. Puis, même ceux qui en ont, c'est très léger. Puis, ça reste, c'est la première journée, la deuxième journée. Puis, après ça, ça va mieux. Il peut avoir aussi des effets systémiques, comme de la fièvre. Ils sont un peu fatigués, mal à la tête. Mais ça aussi, c'est très, très, très court dans le temps. Puis, après ça, ils vont beaucoup mieux. Donc, ça les rassure beaucoup de leur dire que ça va être rapide. Puis, que ça ira bien, surtout s'ils en ont plusieurs dans leur classe qui vont ensemble puis ils se comparent.
Oui, et c'est là que ça devient crucial parce que évidemment les enfants se parlent entre eux. Donc s'il y a un enfant qui lui soit s'est fait vacciner ou va se faire vacciner, qui parle dans la cour de récréation avec un enfant dont les parents sont peut-être anti-vaccins ou démonisent les vaccins, ça doit donner lieu parfois à des drôles de réactions dans la cour de récréation. Comment on fait pour rassurer les enfants qui ont eu le vaccin ou qui vont l'avoir s'ils ont parlé avec des enfants dont les parents sont anti-vaccins?
Alors, déjà, vous l'avez fait la remarque au tout début en disant que les publicités étaient vraiment dirigées pour les enfants. Je pense que parce qu'ils veulent se mettre à ce niveau-là pour essayer de les encourager sans nécessairement stigmatiser, parce que définitivement, une intimidation dans le cours d'école, parce que c'est pas la faute de l'enfant, là, c'est le parent qui a pris une décision pour son enfant. Donc, c'est vraiment d'avoir cette discussion à l'école, avec les professeurs, et ça repasse encore par la bonne information. Et je pense que c'est ça qu'on doit être outillé. Nous, dans le bureau de médecins, c'est ce qu'on essaye le plus possible en tant que médecin de première ligne, d'essayer de rassurer les parents. Mais à l'école, sur le terrain, c'est aussi très important qu'il y ait des ateliers d'information pour les professeurs qui sont témoins de ce genre de réaction dans la cour d'école, dans les couloirs, pour pouvoir rassurer les autres enfants, puis avoir cette discussion avec leurs parents. Donc, c'est pas parce que j'ai 10 ans que je peux pas en parler versus quand j'ai 14 ans, puis que je suis un mineur, qui peut décider pour moi-même sans leur avis. Donc, même ceux qui le faisaient, et même les ados qui étaient capables, moi, je leur disais toujours, c'est important d'avoir cette discussion avec papa et maman, là, à ce sujet, parce qu'il peut y avoir aussi une dissidence entre les parents. Des fois, un parent est d'accord,
oui.
L'autre n'est pas d'accord et hésitant, parce qu'ils sont pas nécessairement anti-vaccinaux. La plupart d'entre eux sont juste hésitants parce qu'ils veulent juste avoir la bonne information. C'est pour ça que c'est super important pour nous, en première ligne, de les informer de la bonne façon.
Oui, c'est ça. Puis c'est pas en non plus, vous avez tout à fait utilisé le bon mot, c'est pas en stigmatisant non plus qu'on va y arriver, parce qu'il y a toutes sortes de questions qui sont légitimes. Par contre, il faut pas non plus se fermer les yeux sur le fait qu'il y a quand même une frange de la population qui est minoritaire, mais qui est extrêmement agressive les questions ne sont pas nécessairement légitimes, c'est-à-dire que c'est une agressivité envers le personnel soignant, une agressivité envers le gouvernement, envers les autorités. Donc il y a tout ce côté-là aussi avec lequel il faut faire face. Donc on l'a dit au début, évidemment, ce sont des plus petites doses. Je ne savais pas par contre que les aiguilles étaient beaucoup plus petites. Ça, vous me l'apprenez aujourd'hui.
Oui.
Je le savais pas. Donc quand vous regardez par exemple la campagne publicitaire où on voit des enfants dans différentes situations, un enfant qui prend son grand-père dans ses bras, un enfant qui joue au hockey avec ses amis, un enfant qui fête un anniversaire, et dans chacun des cas, ils font une grimace à la COVID. Vous pensez que ça, c'est la bonne approche pour aller rejoindre les enfants?
Oui, je pense, parce que effectivement, le fardeau sanitaire chez les enfants de 50 ans n'est pas élevé. Donc, il n'y a pas beaucoup d'hospitalisation, zéro décès au Québec. Donc, c'est certain qu'en termes de complications, on a le syndrome inflammatoire multisystémique qui demeure quand même rare, 6 cas pour 100 000. La COVID longue qui a été décrite, mais bon, elle reste encore à définir. Donc, les conséquences psychosociales, elles sont très importantes chez les jeunes et chez leurs familles. Puis, les fermetures scolaires, l'isolement, l'absentéisme, les problèmes de santé mentale, tout ça, ça pèse très lourd, en
oui.
fait, pour les enfants. Puis, c'est pour ça que la publicité a été vraiment dirigée à cela, au fonctionnement que nous empêche la COVID avec les nouvelles variantes qu'on entend depuis la semaine dernière aussi, avec cette inquiétude autour de cela. Donc, il va avoir certainement, je veux dire, c'est un virus qui mute. Il y a des milliers de mutations. Là, on entend parler de 4 vagues avec 4 variants, mais donc là, on entend parler d'un autre, mais on va pas s'épeurer parce que de toute façon, c'est ça que ça fait un virus pour survivre, c'est muter. Et après ça, on va essayer d'isoler un qui va être plus préoccupant pour être sûr que notre vaccin va pouvoir nous protéger contre. Mais lorsqu'on voit une évolution naturelle comme ça du virus, ça nous convainc encore plus de dire, ben, si on a une arme pour se protéger contre cela, ben, on va l'utiliser. Comme ça, on pourra quand même continuer notre vie, aller aux anniversaires et aller à nos pratiques de sport, etc. Donc, je pense que c'est bien dirigé parce que on va commencer les fêtes de Noël, puis on va se retrouver en famille, puis on veut pouvoir enlacer papier et mamie. Puis ça, c'est important de se dire qu'on rajoute une couche de protection pour l'enfant lui-même, pour sa famille et pour les autres autour de lui. Parce que souvent, ces mutants vont être beaucoup plus contagieux.
Oui.
Et donc
c'est
ça qui est important.
D'accord. Vous, le variant Omicron, il vous inquiète pas plus que ça? C'est-à-dire que ce que vous semblez dire, c'est en fait ce qu'on entend beaucoup, c'est que un virus, par définition, va muter. Donc, on va pas commencer à s'énerver chaque fois qu'il y a une mutation ou une variation.
Alors, ces mutations, ce qui est important, l'Omicron, il a une trentaine de mutations. Donc, c'est sûr qu'elles vont s'accumuler. Puis après ça, lorsqu'une population de virus va exprimer toutes ces mutations-là, là, elle va devenir prédominante. Vous savez, le Delta, là, qui a commencé cet été,
oui.
Ça a pris 2-3 mois avant qu'on le détermine en tant que souche prédominante qui était très transmissible dans la communauté. Donc là, ça va prendre du temps. Je ne dis pas que je ne suis pas inquiète. Je dis tout simplement qu'il ne faut pas non plus s'alarmer. Il faut voir dans les prochaines semaines comment va évoluer cette souche-là. Vous savez, Omicron, c'est pas après Delta, là, dans l'alphabet grec. Ça veut dire qu'entre les deux, il y en a eu beaucoup d'autres mutations qui ont finalement échoué à s'installer dans la communauté. Donc, ça veut pas dire nécessairement, parce qu'on l'a nommé déterminé, qu'il est plus virulent, qu'il est plus transmissible, qu'il va causer plus d'hospitalisations ou de décès. Il faut être patient et on a un système de surveillance qui marche très bien. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on a pu le déterminer très rapidement, oui. Avec la transparence des pays, etc. On en a déjà en Ontario, au Québec. C'est une question de temps là pour que ça soit dans le Canada. Donc, c'est une question vraiment de le suivre et aussi de voir l'efficacité de notre vaccination actuelle pour le combattre. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas inquiétant. Je dis tout simplement qu'il faut vraiment suivre et d'autant plus utiliser nos armes,
voilà.
pour s'en débarrasser.
Exactement. Donc, alors, mettons un enfant qui se fait vacciner aujourd'hui. Là, on est le 30 novembre. On sait que, bon, le vaccin, normalement, ça prend quand même un certain temps avant qu'il ait son plein pouvoir. Donc, chez les enfants, vu que la dose est beaucoup plus petite, je pense que c'est un tiers de la dose, est-ce que au bout de quelques jours seulement, la dose est pleinement efficace? Comment ça fonctionne pour se préparer pour le temps des fêtes, là?
Alors, pour la dose, je vais vous rassurer tout de suite, c'est 10 microgrammes. Donc, effectivement, un tiers de la dose des ados plus de 12 ans et des adultes. Mais c'est pas moins efficace ou ça va pas monter une réponse immunitaire plus lentement ou plus rapidement.
D'accord.
C'est juste que lorsque la compagnie avait utilisé les différentes doses, on a pu voir que le taux d'anticorps produit après une dose de 10 microgrammes était suffisant tellement le système immunitaire des enfants fonctionne bien pour monter une réponse protectrice. Donc ça, déjà, c'est un vaccin qui est aussi efficace que même si la dose est le tiers. Donc, premièrement, le système immunitaire, lorsqu'il va monter une réponse, ça prend à peu près, oui, ça fait quelques jours, mais pour avoir une protection pleine, c'est 14 jours. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut au moins avoir 14 jours, puis c'est pas propre au vaccin de la COVID. Tous les vaccins qui sont dans le calendrier québécois sont, c'est comme ça, même quand on fait un voyage, on dit qu'il faut toujours se vacciner 2 semaines avant le voyage pour avoir un maximum de protection avant le voyage. Donc, ça s'applique aussi pour le vaccin de la COVID chez les enfants et comme pour tous les autres vaccins qu'on leur donne. Donc, pour moi, il faut se dire qu'on se donne un 2 semaines. Donc, si aujourd'hui ils se font vacciner, ben, à la mi-décembre, ils auront déjà une bonne protection. C'est sûr que la protection, elle est optimale après la deuxième dose. L'INSPQ s'est positionné pour que ça soit 8 semaines d'intervalle, mais ça pourrait aux États-Unis, ils ont déjà vacciné 2,5 millions d'enfants, là, 3/4 des enfants de 5 à 11 ans sont déjà vaccinés, puis eux, ils ont déjà fait leur deuxième dose, parce qu'ils ont appliqué le 3 semaines de Pfizer, qui avait été inclus dans les essais cliniques. Donc, je veux dire, l'intervalle, là, ça sera à réévaluer si, par exemple, on détermine qu'Omicron est très, très contagieux, puis qu'on doit absolument se mobiliser pour maximiser la réponse pendant le pic de l'hiver. Donc, ça serait, je pense que avant même, lorsque l'INSPQ s'était positionné le 23 novembre, à peine si c'était 3 jours plus tard, là, on a commencé, l'OMS avait déclaré que c'était une souche préoccupante. Donc ça, on va s'ajuster.
Donc, ce serait important, en effet, que l'INSPQ, l'Institut national de la santé publique, réévalue à la lumière d'Omicron et peut-être éventuellement faire passer le délai de 8 semaines entre la première et la deuxième dose, de le rapprocher plus.
Si nécessaire.
Donc, parfait.
Vraiment, tout à fait. Donc, l'INSPQ, vraiment, fait un travail extraordinaire pour faire ce suivi très, très rapproché de notre épidémiologie propre au Québec. Et donc, on va s'ajuster vraiment par rapport. Donc, c'est pas parce que d'autres pays le font 3 semaines que nous, on doit s'aligner. Ça va vraiment dépendre de notre épidémiologie. Mais définitivement, j'encourage les parents à donner au moins une première dose de vaccin avant les fêtes de Noël à leurs enfants parce que au moins, ils vont avoir cette protection supplémentaire.
Voilà. Et le plus tôt sera le mieux, en fait, docteur Wiseman. Alors, parce que si, en effet, on calcule qu'il s'apprend ce 14 jours pour qu'il soit, qu'il ait atteint son plein potentiel, donc vraiment l'efficacité supérieure, ben on veut pas se faire vacciner non plus le 22 décembre, là. C'est pas comme dans la chanson de Beau Dommage, 23 décembre, on se reverra le 6 janvier, là.
Je pense que, quelle que soit la date, je suis très contente lorsqu'un parent a réfléchi à la question et a décidé de vacciner son enfant. Donc, je vais pas mettre cette pression supplémentaire sur le timing, mais c'est certain que le timing fait une différence par rapport donc aux réunions familiales qui s'en viennent. Donc c'est certain que pour moi ça va être un argument de plus pour le faire le plus tôt possible. Mais s'ils ont décidé de le faire plus tard, je vais pas leur dire c'est trop tard là.
Non, on va pas les chicaner.
On a une saison hivernale là qui va s'étendre jusqu'en mars. Je leur dis la même chose pour le vaccin de la grippe d'ailleurs.
Ouais.
Donc j'encourage tous les parents lorsque je les vois dans mon bureau de leur dire on a commencé déjà il y a un mois la vaccination de la grippe. La grippe s'en vient, on sait qu'elle va être un petit peu plus virulente étant donné l'expérience de l'hémisphère sud, et donc on veut être sûr que on évite des complications aussi de la grippe. Donc de la même façon que j'encourage pour le vaccin de la COVID, j'encourage aussi pour le vaccin de la grippe cette année. Et s'ils l'ont pas fait avant Noël, et qu'ils le font un peu plus tard, c'est sur 5 mois là, qu'on a la grippe.
Voilà.
Exactement. Je trouve que c'est une bonne décision.
On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup. Ça a été très éclairant. Dr Sarah Wiseman, vous êtes pédiatre infectiologue chez Elna Pédiatrie Tiny Tot, donc tout un réseau de cliniques pédiatriques. Très éclairant. Merci beaucoup d'avoir accepté
de
partager vos bons conseils. Merci beaucoup, Dr Wiseman.
Merci, au revoir.
Et c'est comme ça que se termine l'émission avec ces bons conseils. Oui, en effet, puis vaccin pour la grippe, vaccin pour la COVID. Il faut réfléchir à tout ça. Je voudrais remercier Jean-François Paquet à la mise en onde, à la réalisation. Merci à Florence Lamoureux qui a pédalé toute une shot hier. On a eu toute une journée à la recherche. Merci beaucoup, Florence, d'avoir été là. Puis merci à vous, bien sûr, toujours, d'être fidèle au poste. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir été là. Puis on se retrouve demain.